Nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu et j'ai préparé un petit diaporama pour accompagner cette parole que nous allons voir ensemble ce matin. Et donc on va lire deux textes d'introduction, un texte d'introduction que nous trouvons dans Romains chapitre 11. On va lire à partir du verset 36, Romains 11. L'apôtre Paul écrit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour ce texte extraordinaire et que nous trouvons dans cet épître de l'apôtre Paul aux Romains. Et nous allons voir ce matin cette transformation dont l'apôtre Paul nous parle, cette transformation qui s'opère en nous par le renouvellement de l'intelligence. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et cette transformation, elle vient de lui. C'est par lui, c'est de lui, c'est lui qui en est à l'origine, ça porte la marque de Dieu en nous, c'est par lui que cela aussi se fait, ce ne sont pas des manipulations humaines, ce ne sont pas des instructions humaines qui peuvent le faire, mais c'est par lui et pour sa gloire, que son nom soit béni. Alléluia. Le Seigneur est celui qui a commencé ce processus de transformation en nous lorsque nous nous sommes donnés à lui, lorsque un jour, en entendant l'appel de Dieu, eh bien nous avons dit au Seigneur, oui, je t'ouvre mon cœur, que Dieu soit béni. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui est un Dieu transformateur. Il est celui, voilà, ça aussi ça se transforme. Il est celui qui transforme toutes choses. Alléluia. La création même porte, eh bien, j'allais dire, la marque de ce Dieu qui transforme toutes choses. Nous le voyons dans ce que Dieu fait. Par exemple, nous connaissons, eh bien, la métamorphose des papillons. Avant d'être ces jolis papillons qui, eh bien, sont là dans nos campagnes, et avec leurs jolies couleurs qui s'envolent dans les airs, nous savons qu'avant cela, c'est une chenille. Rien à voir. La chenille ne peut pas s'envoler, elle n'a pas les mêmes couleurs. Donc elle est là, elle traîne son ventre par terre comme elle peut. Et puis après, donc, il va y avoir ce cocon pour finalement, eh bien, devenir un papillon. Et puis, on pourrait trouver d'autres animaux qui aussi portent en eux, j'allais dire, cette marque de la transformation. Par exemple, prenons une grenouille. Une grenouille, avant d'être grenouille, c'est tétard. Ça ressemble pas trop. Hein. Et puis même avant, c'est un genre d'œuf là qui est dans l'eau. Donc on voit qu'il y a là un processus de transformation jusqu'au moment où la grenouille va être, j'allais dire, à l'âge adulte. Je veux dire que cette transformation, elle est partout dans le vivant, j'allais dire, elle est là parce que nous savons que Dieu est celui qui transforme toutes choses. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 21, Il est dit que le Seigneur Jésus transformera le corps de notre humiliation, ce corps que nous portons, qui est limité, qui est misérable, ce corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Je veux dire que ça, c'est encore plus extraordinaire que le papillon. Imaginez, ce corps-là que nous avons va être, c'est la parole de Dieu qui le dit, semblable au corps de sa gloire. Une transformation extraordinaire que Dieu a en réserve pour nous lors de la résurrection finale, que son nom soit béni, parce que nous savons que Jésus vient chercher son Église. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il y a aussi ce verset qui nous dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image, celui à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Et ce processus, comme je le disais tout à l'heure, a commencé lors de notre conversion, mais la conversion ne s'arrête pas là, bien sûr, ça continue. Nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image, comme par le Seigneur, l'Esprit, c'est lui qui opère cela en nous, que son nom soit béni. Donc on voit ici, dans cette introduction, j'ai voulu vraiment insister que la création même porte la marque d'un Dieu qui apporte le changement, d'un Dieu qui transforme toutes choses, et nous-mêmes, nous sommes appelés à être transformés. Ça a commencé notre conversion, mais ça se terminera lorsque, nous serons enlevés, vers le Seigneur dans les nuées, que son nom soit glorifié pour ce qu'il fait en nous. L'apôtre Paul dira, que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a deux verbes que l'apôtre Paul emploie dans ce texte, deux verbes qui ont la même racine, je veux dire le même radical, c'est conformer et transformer. Conformer et transformer, mais ces deux verbes sont différents dans leur signification. Ils sont différents. L'apôtre Paul nous invite à ne pas nous conformer au siècle présent, mais au contraire, à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous savons ce que veut dire conformer. Se conformer, c'est régler sa conduite en accord avec quelque chose, se soumettre, s'adapter, se conformer au règlement. Notre monde a ses habitudes, notre monde a sa façon de vivre, notre monde a en lui la marque du péché. Notre monde, il est écrit, est sous la puissance du malin. Et donc, puisque le monde a la marque du péché, puisque le monde est sous la puissance du malin, il est évident que, à un moment donné, cela pose problème aux chrétiens. Il y a même un antagonisme, il y a un conflit entre nos positions et ce qui existe dans ce monde. On pourrait dire, pas grave, on se conforme et on n'a pas de problème. Sauf que si on n'aura pas de problème à ce moment-là vis-à-vis du monde, on en aura quand même vis-à-vis de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui parle dans nos consciences. Alors, nous ne voulons pas nous conformer. Il y a ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une tomate non conforme. Au milieu des tomates vertes, il y a une tomate rouge. Ça serait difficile de la faire redevenir verte, hein, n'est-ce pas? Pour être conforme, de suite, si elle n'est pas conforme, on va la prendre et on va la mettre de côté parce qu'on veut vendre que des tomates vertes, peut-être pour en faire des condiments ou je ne sais trop quoi encore. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas appelés à nous conformer, mais nous sommes appelés à être transformés. Nous sommes appelés à être transformés par notre Seigneur Jésus. On sait ce que veut dire transformer, c'est être modifié, c'est être tranché, changé en quelque chose de différent, en quelqu'un de différent. Et cela, eh bien, s'opère par la grâce du Seigneur en nous. Il nous transforme. Les légendes nous ont appris qu'une princesse, si elle embrasse une grenouille, celui-ci se transforme en prince charmant. Essayez, mesdames, si votre mari est un peu grognon, de lui faire un bisou. Peut-être, ça va, je l'espère, le transformer en prince charmant. Peut-être que des fois, ça marche. Mais il en faut bien plus, parfois. Hein, nous sommes bien au courant de cela. Et l'œuvre du Seigneur se fait en nous, au-delà de tout ce que les êtres humains peuvent faire, au-delà des méthodes, au-delà de toutes les instructions humaines, il y a quelque chose qui s'opère en nous par le Saint-Esprit, dans la mesure où nous acceptons et que nous nous laissons changer par le Seigneur. On en reparlera tout à l'heure. J'aimerais prendre un exemple, c'est celui de l'apôtre Pierre. Il en a été question tout à l'heure dans un don de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, prenons bien conscience que depuis tout petit, il est né dans sur le territoire d'Israël et il a grandi sur ce territoire, élevé en dans l'instruction religieuse de son pays, dans le judaïsme. Et l'apôtre Pierre a grandi avec cette culture. L'apôtre Pierre n'était pas un voyageur, il est resté là. Et dans son pays, il lui est même dit que c'était un homme sans instruction. Sans instruction. Et l'apôtre Pierre était vraiment ancré dans cette culture, ancré dans la culture juive. C'était son, j'allais dire, c'était dans son ADN, il était là. Et à un moment donné, le Seigneur lui dit, eh bien, tu es mange. Il lui montre ainsi dans cette nappe la vision qu'on voit dans Acte 10, toutes sortes d'animaux purs, impurs, parce que les Juifs observaient des certaines règles alimentaires. Ils ne pouvaient pas, ils ne peuvent toujours pas d'ailleurs, manger certains animaux qu'ils considèrent que la loi de Moïse considère comme impurs. Alors l'apôtre Pierre, il réagit, hein, il réagit, et le Seigneur lui a montré par trois fois. Mais l'apôtre Pierre a des résistances, il a des résistances en lui, il réagit. Et il dit non, mais jamais rien de impur n'est rentré dans la bouche, donc il veut pas, il veut pas, il veut pas. C'est un bon juif, il veut pas. Il a grandi là, et il ne connaît rien d'autre que cela. Mais Jésus dira, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Hein. Quelque chose s'opère en Pierre. Vous voyez ? Pierre commence à être transformé dans son intelligence. Son intelligence. Et là, elle se renouvelle. Et au travers de cela, au-delà de la nourriture, il y avait là un message de la part du Seigneur pour que Pierre aille chez un païen. Inconcevable. Inconcevable pour Pierre. Hein. Si le Seigneur ne lui avait pas parlé, il ne serait jamais entré chez Corneille, chez un païen. Jamais il l'aurait fait. En plus, un officier romain. La force, je veux dire, impériale de l'époque, cet homme représentait l'Empire romain de par sa position militaire, l'Empire colonial de l'époque. Alors là, encore plus, l'apôtre Pierre ne serait jamais rentré chez lui. Jamais. Il le dit à Corneille. Hein. Et puis, on voit que même dans Acte 11, au début du chapitre 11, les autres premiers chrétiens, les premiers disciples et les autres là qui servaient le Seigneur ont fait des reproches à Pierre parce qu'il était rentré chez un païen. Donc on voit que Pierre et puis les autres avaient besoin d'être renouvelés dans leur intelligence. Et Pierre, malgré ses craintes, malgré ses résistances, a accepté cela et il a été transformé. Et cette transformation qui a eu lieu en l'apôtre Pierre a eu un impact non seulement pour lui, mais bien sûr cela a apporté le salut à toute cette maison de Corneille et a ouvert la voie de l'évangélisation pour toutes les nations, même si c'est l'apôtre Paul qui va aller plus loin que l'apôtre Pierre dans ses missions. On voit ici que il y a des choses qui sont vraiment tenaces en nous, qui nous collent à la peau, qui sont là, et notre intelligence, notre façon de discerner les choses, notre façon de comprendre, nos pensées ont besoin d'être renouvelées. Et ce renouvellement va apporter une transformation. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence apporte une transformation. Elle apporte une transformation à tout point de vue. Elle apporte une transformation comme elle a apporté pour l'apôtre Pierre dans nos cœurs, dans notre façon d'appréhender les choses, d'appréhender les personnes, dans notre manière de discerner les choses, dans notre comportement, parce que cela agit en nous profondément, dans nos sentiments, dans nos émotions même. Nous sommes transformés. Alléluia. Un processus qui est là, qui est en cours et qui agit en nous à tel point que le cours même de notre vie en change. Le cours même de notre vie en change. Et le Seigneur ainsi nous donne petit à petit, eh bien, en étant transformé, prendre ainsi de la hauteur dans le sens que nous ressemblons de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne voulons pas que ça s'arrête. Nous ne voulons pas dire simplement le jour de ma conversion j'ai changé et puis point final. Non, on a encore besoin d'être changé chaque jour, que notre être intérieur puisse ainsi se renouveler. Alléluia. Nous le voyons eh bien, à l'œuvre dans nos vies et nous pouvons le constater même avec le recul qu'il y a des choses qui nous arrivent et nous ne réagissons plus pareil. Il y a des pensées qui sont là, on change intérieurement parce que notre opinion et puis nos convictions même ont changé sur certains points parce que eh bien, le Seigneur a fait son œuvre dans nos cœurs, que Dieu soit béni. Ce renouvellement de l'intelligence, l'apôtre Paul nous parle de discernement. Ce renouvellement de l'intelligence apporte du discernement. Sur cette diapositive, vous avez remarqué qu'il y a une dame qui regarde deux chemins. Je m'adresse à un auditoire qui a l'habitude des randonnées. Je m'en suis aperçu. Il y a des randonnées qui sont programmées dans les montagnes. Et parfois, dans les montagnes, il y a des bifurcations, il y a des croisements. Quel chemin prendre? Je vais raconter une petite anecdote. Nous faisions une randonnée au Pays Basque et nous étions sur le sommet. Bon, pas une grande montagne, mais quand même assez haute. Hein. Nous étions sur le sommet, vous savez, mais le problème, c'est que faut trouver le bon chemin. La voiture, elle était en bas. Si on ne prend pas le bon chemin, on peut se retrouver de l'autre côté. Hein. Et puis, à un moment donné, il y a une bifurcation comme ça. Alors, j'essaye d'analyser. Et puis, il y avait la famille qui était là aussi. De voir quel chemin il fallait prendre. Je n'ai pas pris le bon chemin. Hein. Je me suis trompé. J'ai manqué de discernement et on s'est retrouvé en bas de la montagne, mais la voiture, elle était 6 km plus loin. Alors, il nous a fallu refaire encore un peu de marche pour retrouver la voiture. Donc voilà, on essaye de comprendre quel chemin il faut prendre, on essaye d'analyser, de voir là où ça nous mène, mais le renouvellement de l'intelligence nous donne cette capacité de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et dans telle ou telle situation, on est là, qu'est-ce qu'il faut choisir? Bon, il y a des choses facile à choisir. Mais il y a des choses plus pointues où il nous faut vraiment toute la grâce du Seigneur Et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu aurais fait à ma place dans telle ou telle situation? Et ce qui est bien, c'est que nous sommes transformés et cette transformation apportée par le renouvellement de l'intelligence nous aide à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes là et le Seigneur nous donne cette intelligence pour comprendre, cette intelligence qui, et je le rappelle, ne vient pas des hommes, mais elle nous est communiquée par la parole de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Si on n'est pas renouvelé ainsi, nous allons discerner avec les raisonnements du passé. Et là, on peut faire des erreurs. Nous allons faire des choix avec des principes de raisonnement, avec des filtres que nous avons, sans savoir ce qu'il convient de faire. Et là, on peut faire des erreurs, on peut se dire, voilà, mais on a toujours fait comme ça. Ben, peut-être. Mais ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'on avait raison, déjà. Et quand bien même on avait raison, il faut savoir pouvoir se remettre en question et dire, peut-être qu'on a fait toujours comme ça, mais maintenant, toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce que nous savons que le Seigneur tient les temps et les circonstances entre ses mains et nous voulons nous laisser renouveler entièrement. Alors, que le Seigneur se fasse son œuvre dans nos cœurs. Pour que ce renouvellement se fasse, il faut vraiment que nous nous laissions transformer. Que nous nous laissions transformer. D'ailleurs, dans Romains chapitre 12, nous pourrions même traduire ainsi, laissez-vous transformer. Hein? Soyez transformés ou laissez-vous transformer. Je disais tout à l'heure que Pierre a eu des résistances et nous avons parfois aussi des résistances. Nous avons des craintes. Nous avons des craintes parfois liées à l'inconnu. Où est-ce que cela va me mener? Mais nous voulons faire confiance au Seigneur. Il y a donc notre acceptation dans la foi qui doit recevoir ce que Dieu veut déposer dans notre cœur. Et nos résistances, elles sont logiques, elles sont humaines. Mais nous voulons les mettre à la lumière de la parole de Dieu et ce que nous avons reçu. Parce qu'elles nous bloquent, résistances, craintes, préjugés que nous pouvons avoir. Tout cela bloque ce que le Seigneur veut faire dans nos cœurs. Il est important, d'autre part, de se maintenir dans la vie de l'Esprit. Dans la vie de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit, comme je le disais tout à l'heure, qui fait ce renouvellement en nous. Sauf que il nous faut nous maintenir dans cette vie de l'Esprit. L'apôtre Paul, parlant aux Galates, dira, mais après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous en finir par la chair? Oui. Les Galates avaient bien commencé dans la foi. Ils s'étaient convertis au Seigneur. Le Seigneur les avait fait entrer dans cette vie avec Dieu, cette vie de Dieu, cette vie pour Dieu. Puis à un moment donné, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été séduits dans leur cœur et ils sont retournés à des rudiments qui n'ont servi à rien et à tel point qu'ils observaient scrupuleusement la loi de Moïse, imposant la circoncision, etc., etc., et ils en étaient revenus à la chair. Donc, ils ne pouvaient pas être renouvelés dans leur intelligence parce qu'il y avait là un blocage et qu'ils ne s'étaient pas maintenus dans cette vie de l'esprit. Dans cette vie de l'esprit. Et c'est ce qui arrive, et c'est malheureux quand ça arrive, lorsque nous n'entretenons pas notre cœur. L'apôtre Paul dira bien, entretenez-vous. Alléluia, entretenez-vous. Donc nous voulons entretenir nos cœurs, que Dieu soit béni pour cette œuvre qu'il fait en nous. 2 Corinthiens 4, 16. On peut le lire. 2 Corinthiens 4, 16. Il est écrit ceci dans 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Nous voyons dans ce verset que, je l'ai déjà dit et répété, c'est que pour que ce renouvellement soit efficient en nous, il doit être constant. Être constant. Il y a aussi quelque chose qui est constant en nous, un processus qui est là et qui ne s'arrête pas. C'est que nous vieillissons. Vous avez remarqué, hein ? Nous vieillissons. Les jeunes ne remarquent pas trop encore, mais prenez patience, les jeunes. Vous allez vite voir que vous vieillissez aussi. Alors, on a l'habitude dans nos pays, parce que on a appris à lire de droite à gauche, n'est-ce pas ? Et comme on a cette habitude, même les images, on les lit de droite à gauche. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on commence bébé. Voilà. On a eu la joie récemment de présenter un bébé. Mais un jour, il sera comme ça. Hein. Il sera comme ça un jour. Voilà, donc on grandit au fur et à mesure, et puis au bout d'un moment, même on rétrécit un peu. Hein. Voilà, c'est un processus qui est constant. Alors dans nos pays, on apprend à lire de droite à gauche. J'ai appris l'arabe pendant 2 ans. On apprend à lire de gauche à droite. C'est l'inverse. Excusez-moi, oui, parce que comme je regarde comme ça, voilà. De gauche, voilà. On lit comme ça, en arabe. Donc si je veux lire à l'arabe, eh bien je commence par être vieux, pour rajeunir. Ben, nous, on ne va pas lire comme ça, mais la langue arabe, c'est comme ça. On l'a appris pendant 2 ans, donc si je lis comme les arabes y font, je commence par être vieux. Ah, la Bible ne nous parle-t-elle pas du vieil homme ? La Bible nous parle du vieil homme. Celui-là, il faut le faire disparaître. Hein. Non, mesdames, faites pas disparaître votre mari s'il est âgé. Hein. Mais le vieil homme, il faut le faire disparaître. Nous sommes renouvelés par la grâce du Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit ici que notre homme extérieur, lui, il se détruit de droite à gauche, là, hein, comme ça. Mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Il se renouvelle de jour en jour. Que Dieu soit béni pour ce qui s'opère en nous, parce qu'il est celui qui va faire paraître son Église devant lui sans rides, sans tache. Éphésiens 5, 25. Il est celui qui va faire paraître son Église sans rides. C'est quoi les rides ? Pourquoi l'apôtre Paul parle-t-il des rides ? Quand il parle de l'Église, une ride, c'est la marque du temps. Marque du temps. Mais là, il y a des rides d'expression, mais voilà, il y a les rides qui. Parce qu'on commence à avoir de l'âge, on a des rides. On ne peut rien y faire. Hein. On ne peut rien y faire. Mais ce qui est extraordinaire, malgré les 2000 ans de l'Église, c'est que lorsqu'elle va paraître devant lui, elle n'aura pas de rides. Alléluia. Pourquoi ? Parce que le Seigneur la renouvelle. Il la renouvelle. Alléluia. Ne laissons pas les marques du passé être indélébiles, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne laissons pas, nous personnellement, mais ne laissons pas non plus, j'allais dire, ce passé nous marquer à tel point que l'Église en soit ridée. Puissions-nous, eh bien, être renouvelés dans notre intelligence, que le Seigneur soit glorifié. Ne nous arrêtons pas sur ce qui est passager, mais regardons à ce qui est éternel. Lisons un texte ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7. On va lire tout le texte. 2 Corinthiens 3, 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Leur intelligence n'a pas été renouvelée. Ils sont devenus durs. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Parce que même, on le voit, symboliquement, ils mettent sur leur tête, quand ils lisent l'Ancien Testament, ils mettent ce voile. Et ici, il est dit, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et l'apôtre Paul termine avec ce verset que nous avons lu tout à l'heure. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Pourquoi n'ont-ils pas pu être renouvelés et découvrir la splendeur de Christ ? Parce qu'ils sont restés fixés sur ce qui était provisoire. Ils sont restés fixés sur cette période de l'Ancien Testament où Moïse nous mettait un voile sur son visage pour pas qu'on voie cette gloire qui était que passagère. Mais c'était que l'ombre des choses à venir. Tout ça, ça nous parle de Christ. Et tant qu'ils auront les yeux fixés sur cela, ils ne pourront pas découvrir la splendeur de l'évangile de Christ. Ils ne pourront pas. Et ils sont devenus durs d'entendement à cause de cela. Frères et sœurs, ce que je dis là est important. Ne nous arrêtons pas sur ce qui est passager. Ça, c'est important. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance. Ça, c'est son importance. Mais nos yeux sont fixés sur ce qui est éternel. Nos yeux ne sont pas fixés sur ce qui est visible. Ils sont fixés sur ce qui est invisible, sur Jésus-Christ. Et tant que nos yeux seront fixés sur Jésus-Christ, alors, nous serons transformés de gloire en gloire en la même image. Lisons encore un verset dans Colossiens chapitre 3, verset 10. Colossiens chapitre 3, verset 10. On va lire même le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Revêtir l'homme nouveau. Et même cet homme nouveau peut vieillir. L'homme nouveau peut vieillir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira que cet homme nouveau, il se renouvelle. Encore et encore et encore, il se renouvelle, cet homme nouveau se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, et celui qui nous a créé, c'est Jésus-Christ, alléluia. Donc nous sommes transformés dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos yeux, nos cœurs sont portés sur Jésus. Nous voulons vraiment lui laisser toute la place dans notre cœur, à tel point, comme Paul, nous voulons le dire et le vivre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Et dans cette mesure-là, eh bien, nous serons constamment renouvelés dans notre intelligence et donc, du coup, transformés de gloire en gloire que son nom soit béni. Frères et sœurs, nous voulons vivre ces choses. Nous voulons que le Seigneur nous transforme les uns les autres. Nous voulons que l'Église soit transformée par le Seigneur Jésus-Christ. Non pas par, j'allais dire, des principes humains, mais par l'action du Saint-Esprit en nous. Que Dieu soit béni. Alléluia. On va le remercier ensemble. Te bénissons, Seigneur notre Dieu, et nous te rendons grâce parce que en toi, nous avons trouvé la vie, une vie nouvelle. Nous voulons vraiment que cette vie, Seigneur, continue, que cette vie nouvelle puisse continuer son processus en nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous ayons atteint la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que nous soyons rendus semblables à toi, Seigneur Jésus. Oui, œuvre en nous, Seigneur, tu connais nos résistances, tu connais nos craintes, tout ce qui peut bloquer, Seigneur, en nous ce processus-là. Mais, Seigneur, nous te déposons tout à tes pieds, Seigneur. Viens en nous, Seigneur, continue ton œuvre, car c'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi soit toute la gloire, Seigneur, et tout l'honneur, Jésus. Amen.